C'est parti. Nous allons parler de l'information.
C'est ici que ça s'est passé en fait.
MJV, c'est vous qui représentez le système.
Hello. Bonjour à tous, 9h40 sur France Inter. Soyez les bienvenus dans l'Instant M.
Vous êtes en direct, allez-y.
Serge Dassault est mort hier. L'histoire que nous avons choisi de vous raconter ce matin est celle d'un tycoon de l'aviation devenu contre toute attente un géant de la presse. Tout se joue en 2001-2002. Serge Dassault a 77 ans. Il opère une métamorphose tardive en Citizen Kane. Rachat coup sur coup du Figaro, d'une multitude de quotidiens régionaux et des magazines L'Express, L'Expansion. Lui, l'héritier méprisé, aura donc fait mieux que son père, l'immense Marcel Dassault, créateur de Jour de France et amateur des actualités heureuses. Serge Dassault disait du Figaro qu'il était, je cite, son journal préféré. Récit d'une conquête et d'une période où le marché de la presse française a changé de main et changé de visage.
L'Instant M. Sonia De Villers sur France Inter.
Bonjour Yves de Chaise-Martin.
Bonjour.
Voilà un homme rare au micro. Les médias, vous les dirigez, vous vous y exprimez peu. Je me trompe?
J'avoue,
très bien. Ancien PDG de la SOC Presse, qui était donc ce grand groupe de presse hérité de Robert Hersant et qui détenait le Figaro. Vous avez été également directeur politique du Figaro. Vous avez été acteur et témoin de cette période de conquête de la presse par Serge Dassault. Vous êtes l'actuel propriétaire de Marianne, qui fait en ce moment l'objet d'un projet de vente. Vous reviendrez pour nous en parler?
Ça, on verra.
Ça on verra.
Oui, c'est pas le sujet d'aujourd'hui.
Non, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Alors, avant de tourner les pages de l'histoire Dassault, j'aimerais revenir à notre émission d'hier. Pierre Bellemare à l'honneur, bien entendu. Il présentait, souvenez-vous, le télé-shopping de TF1 avec Marie Scorson, générique. Et hier, patatras, enchaînant les témoignages de l'ancien PDG de TF1, puis de Philippe Gildas, j'ai cru que l'épouse de ce dernier, Maryse Gildas, était la Maryse, la même Maryse qui était aux côtés de Pierre Bellemare pendant tant d'années. Eh bien non, j'ai eu Maryse Scorson au téléphone après l'émission, une femme absolument délicieuse et discrète. Il y avait donc deux Maryses médiatiques dans les années 80, une Maryse Gildas sur Europe 1, une Maryse Scorson sur TF1. Ce n'était pas la même à toutes les deux. Je présente mes excuses et surtout un salut plus que chaleureux. Yves de Chaise-Martin, donc invité de l'Instant M ce matin. L'histoire de la famille Dassault avec la presse commence en fait dans les années 50. L'avionneur crée Jour de France. Il y tient lui-même une chronique intitulée Le Café du Commerce. Écoutez-le au micro d'Anne Sinclair.
Bon, vous êtes vraiment rédacteur en chef de Jour de France.
Oui.
C'est un travail terrible ça, parce que c'est un hebdomadaire et c'est très lourd un hebdomadaire.
Oui. Eh bien, c'était hier que le général de Bénouville et moi-même, nous avons voulu faire un petit journal pour nos électeurs.
Vous dites un journal pour nos électeurs?
Oui, c'est comme ça que ça a commencé.
Ah bon?
Ça s'est développé.
Ah bon, c'est plus ça,
oui,
quand même.
Oui, c'est plus tout à fait ça.
Non.
Le principe de Jour de France, c'est de ne jamais dire de mal de personne.
Ah bon?
Alors, à partir du moment où on ne dit jamais de mal de personne, on est bien forcé d'en dire du bien.
Avouez qu'elle est délicieuse, cette archive.
Formidable.
Voilà. Il était là, donc, le seul héritage de Serge Dassault dans la presse. Serge Dassault attendra la mort de son père Marcel pour prendre la tête du groupe Dassault en 1987. Et il attendra encore 10 ans pour s'intéresser aux journaux. C'est venu extrêmement tard. On peut dire peut-être un petit mot. Il y a d'abord eu des rachats avorté, Yves de Chaise-Martin. Vous ne faisiez pas partie de ce jeu-là à ce moment. Il tente d'abord de racheter Le Point, qui a finalement été repris par François Pinault. Donc, un premier échec. L'Express, L'Expansion, grand groupe de magazines, est mis en vente par le groupe Vivendi. Dassault candidate, mais les magazines sont finalement retirés de la vente. Donc, il faudra attendre 98, où Serge Dassault rachète Valeurs Actuelles. C'était un petit groupe de presse qui s'appelait Valmonde qui lui cède 3 titres. Et puis, il rachète Le Républicain d'Evry, L'Essonne et La Gazette du Val-d'Oise. Nous sommes donc en 1999. Vous êtes à la tête du Figaro, à la tête d'un groupe qui s'appelle la SOC Presse, avec une quantité de quotidiens régionaux. Robert Hersant, propriétaire du Figaro, est mort 3 ans auparavant. Vous manquez d'argent à cette époque-là. Il y a plusieurs candidats à la reprise. Il y a Serge Dassault, il y a François Pinault, il y a Bernard Arnault, il y a Lagardère. Et vous leur préférez le fonds Carlyle, c'est un fonds de pension américain. C'est comme ça que l'histoire est racontée aujourd'hui, et ça s'ajoute aux échecs de Serge Dassault dans la presse.
Oui, revenir dans toutes ces années formidables du siècle dernier quand
oui.
même, parce,
oui,
que,
oui.
parce que c'est loin, loin, loin tout ça. Mais en effet, nous avions, après la mort de Robert Hersant, non pas des problèmes vraiment d'argent, mais des problèmes d'actionnariat, des problèmes de succession, mm-hmm. des problèmes d'avenir, mm-hmm. des problèmes de pérennité d'un journal qui était quand même, qui existait avant. Pierre Brisson, avant Robert Hersant, avant
bien
après
avant.
Serge Dassault, et qui continuera évidemment après. Et donc, il fallait faire le choix entre tous ces prétendants, avec un président de la République, qui à l'époque s'appelait Jacques Chirac,
oui.
sauf erreur de ma part,
oui.
très prenant, très insistant, très intervenant dans le choix d'un journal dont il considérait qu'il pouvait être important pour la France. Pour
alors
la
il voulait quoi Jacques Chirac pour le Figaro en 99 ?
Il m'a dit à plusieurs reprises que tous ces candidats-là et ces prétendants étaient ses amis.
Mm-hmm.
Mais qu'il n'y en avait évidemment bien qu'un seul et un seul et un seul qui pouvait prétendre à être le légitime propriétaire à venir du Figaro. Et vous aurez deviné de qui il s'agissait.
De Serge Dassault ?
Pas du tout.
De qui ?
Pas du tout. D'un autre.
D'un autre.
Il se terminait par AULT aussi.
Ouais. AULT. Donc on a le choix entre Bernard Arnault et François Pinault.
Voilà.
Bien ?
Voilà.
D'accord.
Donc non, sérieusement, je pense, oui, j'ai fait, j'ai pris la responsabilité à l'époque de préférer d'abord dans un premier temps Carlyle, mais ça c'était une anecdote de calendrier, mm-hmm. parce qu'il fallait d'abord restructurer le groupe qui était en lourde perte au moment de la mort de son fondateur et de l'empire de Robert Hersant, qui était dans la difficulté des taux d'intérêt des LBO, puisqu'en fait c'était un gigantesque LBO. Et par conséquent, il fallait d'abord restructurer, d'abord revenir à l'équilibre. L'année 2001 a été l'année historique la plus formidable en termes de résultats financiers du groupe. Et donc c'est à partir de ce moment-là, vraiment 2000-2001, le tournant du siècle que nous avons pu nous intéresser vraiment à l'avenir.
Voilà, Serge Dassault a 77 ans. On dit à l'époque qu'il déborde d'activité et qu'il épuise ses collaborateurs. C'est ainsi que la presse de l'époque le raconte. Tout le monde est extrêmement surpris parce que on dit que le secret a été bien gardé, que tout ça s'est fait dans la plus grande discrétion. Les Dassault n'ont jamais emprunté un sou, écrivait Le Point à l'époque. Les 450 millions d'euros, c'est Serge Dassault qui les met de sa poche et il s'offre Le Figaro. François Pinault, Bernard Arnault était toujours candidat à la reprise du journal à l'époque ?
Absolument.
Absolument. Bien. Pourquoi vous avez choisi, pourquoi ça s'est fait avec Serge Dassault ?
Écoutez, Serge Dassault a trois, pour moi, a eu dans sa vie trois piliers fondamentaux, trois références, trois piliers, trois fondamentaux. C'est son entreprise, c'est sa famille, et c'est son pays, la France qu'il aimait passionnément. Je ne sais pas dans quel ordre il aurait mis ces trois piliers-là, l'entreprise, la famille, le pays, mais en tout cas, sa passion, sa ténacité, son envie m'a paru la plus forte, la plus déterminante, la plus positive pour l'avenir.
Donc il y avait chez ce patriotique industriel une forme de fierté aussi à chasser le fonds de pension américain du fleuron de la presse.
Je pense simplement que de son côté, il s'est posé la question de savoir si l'achat du Figaro et du groupe était bon pour son groupe, était bon pour sa famille, était bon pour son pays, et qu'il a répondu par oui à ces trois questions, et que par conséquent, il était vraiment le plus déterminé, le seul à décider tout seul, le seul à décider dans le plus grand secret, effectivement, et prêt à accepter beaucoup de conditions et beaucoup de données économiques, sociales, financières, sans lesquelles l'affaire n'aurait pas pu se faire.
Alors, il donne à ce moment-là une interview à la télévision. Écoutez Serge Dassault au moment du rachat avec du Figaro.
Je veux que les gens qui parlent, les journalistes, aient peut-être un peu plus d'informations sur la réalité des choses.
Donc vous achetez les journalistes en quelque sorte ?
Non, pourquoi ? On peut leur parler, c'est les convaincre.
Mais si vous n'y arrivez pas sans être propriétaire du groupe de presse, là vous essayez d'y arriver en étant propriétaire.
Bon, en n'étant pas propriétaire du groupe de presse, on ne peut rien faire. Hein. Bon, c'est pas se dire qu'on fera quelque chose en étant propriétaire, hein, parce que c'est très bien que les ventes sont difficiles.
Les gens sont difficiles. Les gens sont difficiles. Ce sont les journalistes. Il avait dit après ce premier rachat avorté de l'Express, ce rachat n'avait pas beaucoup de sens. Je ne pouvais pas intervenir dans la rédaction. De toute façon, Serge Dassault ne mâchait pas ses mots.
Mais, ah oui, ça pour parler cash, comme on dit aujourd'hui, il se privait pas de donner ses idées, de les exprimer, de les répéter à plusieurs reprises, que ce soit sur l'ISF, les 35 heures ou autre. Et, Tout ça veut dire en fait que l'acte d'achat, sa volonté absolue, comme vous savez, c'était un homme tenace. Il a mis 18 ans pour conquérir la mairie de Corbeil. Il a mis pas mal d'années à me convaincre de le choisir pour le Figaro et pour le groupe. C'était un acte politique. Et quand il s'exprime à ce moment-là et à l'époque, il voulait clairement faire acte de politique pour avoir un moyen d'exprimer ses idées, pour avoir un moyen de les faire passer dans l'opinion publique et de les faire passer auprès des pouvoirs publics et des gouvernants. Ce qui est formidable, c'est qu'en réalité, il a très vite compris que cette politique-là avait ses limites. Ça l'empêchait pas une fois par an. J'ai lu ici ou là qu'il faisait des éditoriaux réguliers ou autres. C'est absolument faux. Il avait négocié, passé un accord avec la rédaction, avec les directeurs de rédaction successifs, pour présenter ses vœux une fois par an à ses lecteurs.
C'était le rituel.
Dans lequel il exprimait très clairement et très précisément ses idées. Mais en dehors de ça, il a très vite compris que c'était certes un instrument politique, d'influence politique, mais d'abord que ça pouvait devenir un vrai groupe industriel. Il a fait de l'empire de presse, créé quand même de toutes pièces par Robert Sand, un homme seul et sans fortune, et sans héritage, il en a fait d'abord un instrument de pouvoir politique au début, c'est pour ça qu'il l'a fait. Il a très vite compris, sous l'influence de ses lieutenants, je pense beaucoup de son gendre Benoît Habert, qui a très très vite compris le tournant du numérique, c'est juste à ce moment-là, sur le bord de la ligne de crête, qu'il en a fait maintenant, quand même, d'un empire de presse écrite en voie de difficulté, en voie d'épuisement, de manque de modernité.
Il a fait
cet empire de presse écrite, il a fait aujourd'hui quand même le premier groupe de médias digital de France, d'un journal de vieux fait par des vieux.
Alors justement,
vieux,
ce qu'on a oublié sans doute de Chaise Martin, c'est que les quotidiens régionaux de la famille Hersant faisaient partie du lot. Le Courrier de l'Ouest, la Liberté de l'Est, le Maine Libre, le Nord Éclair, Nord Littoral, Presse Océan, le Progrès, le Dauphiné, Libéré, Bien Public, la Voix du Nord. On a oublié que tout ça s'est passé entre les mains de la famille Dassault, s'est passé entre les mains de Serge Dassault. On a oublié aussi, peut-être, que la même année où il conquiert le Figaro, la même année, il rachète l'Express, l'Expansion. 16 titres, 310 millions d'euros supplémentaires mis sur la table. Qu'en nombre d'exemplaires, il va dépasser le groupe Lagardère, qui était son éternel rival industriel à ce moment-là.
Bien sûr. Pas tout à fait exact dans le calendrier. En fait, c'est moi qui avais racheté l'Express et l'Expansion juste un an avant la vente à Serge Dassault. Mais je l'avais fait avec son accord, puisqu'en réalité, on a oublié de dire qu'il était minoritaire et qu'il avait racheté 30% du capital du groupe en 2002.
C'est ça, pour que ça retombe dans son escarcelle.
Et donc, c'est en début 2003 que nous achetons l'Express, qui était en vente et qu'il avait déjà essayé d'acheter tout seul avant, effectivement. Et nous l'avons acheté en 2003, donc c'est en 2004 qu'il prend le contrôle absolu de ce groupe qui est effectivement devenu le premier groupe de presse quotidienne, il l'était depuis longtemps, mais le premier groupe de presse tout court en France.
C'est ça. Écoutez Denis Jambard, il dirigeait l'Express à cette époque, il avait mené les négociations entre autres avec Serge Dassault. Il est filmé là par Jean-Christophe Klotz pour le documentaire Les Dassault, une affaire de famille sur France 3.
La première fois que j'ai rencontré Serge Dassault, c'était fin octobre 1997 et il cherchait à acheter l'Express. Et je lui dis, mais pourquoi voulez-vous acheter des journaux? Ce ne sont que des emmerdements. Et il m'avait répondu, je veux acheter des journaux parce que mon père en avait.
Parce que mon père en avait.
Ah, la revanche sur son père a toujours été un moteur formidable. Revanche, j'en sais rien. C'est peut-être probablement pas le mot. Vouloir faire mieux et plus, voilà. Il voulait et un jour, j'avais eu avant les premières discussions, au tout début, quand à nouveau, il voulait faire un journal où il serait intervenu tous les jours, puisqu'il m'avait proposé un jour de faire une rubrique quotidienne à la une du Figaro qui se serait appelée la minute du bon sens. Et je lui ai répondu, mais ça me rappelle un peu le café du commerce de votre cher père. Il m'a répondu, oui, mais moi, ça sera tous les jours.
Mais moi, ce sera tous les jours.
Et bien entendu, il y a renoncé, parce qu'il a là aussi eu l'intelligence formidable de comprendre vite que c'était pas possible, tout simplement, que ça aurait été possible il y a 50 ans, comme son père le disait tout à l'heure sur l'interview formidable que vous avez relatée. Mmh. Mais il a très vite compris que c'était plus possible en l'an 2015.
Alors, c'est quand même une période, et quand on relit les papiers du début des années 2000, où tout le monde constate que la presse française est en train de changer de visage, elle est en train de changer de main, qu'on assiste justement à ces opérations de rachat, à ces phénomènes de concentration. Un mot d'abord sur cette loi de 84 qui est dictée par la gauche, puis ensuite vidée de son sens par la droite, qui était destinée à contraindre Robert Hersant, qu'on appelait le papivore, qui rachetait. Justement, on est face là à un dispositif législatif qui n'empêche pas Robert Hersant de grossir dans la presse française.
La plupart de ces acquisitions avaient été faites avant la loi de 1984, mais qui a effectivement été faite pour démanteler le groupe et pour
démanteler le groupe Hersant.
À l'époque, le pouvoir de gauche voulait avoir la main sur un grand journal populaire de gauche et ils voulaient eux aussi faire de la politique à l'ancienne, c'est-à-dire d'intervenir dans le contenu éditorial, rédactionnel, de demander aux journalistes de faire tel ou tel sujet ou d'en interdire tel ou tel autre. Et donc la cible, la volonté du pouvoir socialiste de l'époque était de mettre la main sur France Soir.
Oui.
On aurait mieux fait de le leur laisser.
Peut-être, vu. Serge Dassault a eu des vues sur Le Parisien. Ensuite.
Mais Serge Dassault était devenu le véritable papivore.
Nouveau papivore. Et ça ne s'est pas fait.
Non, ça ne s'est pas fait. Je ne sais pas pourquoi, là, je n'y étais plus et je n'y ai pas participé ni de près ni de loin. Mais je pense qu'il y avait un équilibre peut-être entre le Figaro et le Parisien qui pouvait être très complémentaire. Après tout, il est devenu complémentaire des échos.
Absolument. Serge Dassault a 4 enfants. Serge Dassault a sans doute reproduit le schéma qu'il a connu avec son propre père, c'est-à-dire qu'il les a tenus éloigné du cœur du pouvoir. En tout cas, il a toujours refusé de désigner un héritier. Seul Olivier Dassault a eu des activités de presse à la tête de Valeurs Actuelles, entre autres, des journaux locaux dont on n'a pas parlé, mais ceux qui ont été rachetés dans l'Essonne, qui sont surnommés la Pravda de l'Essonne par les opposants politiques à la famille Dassault. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer à votre avis, vous qui connaissez cette famille de l'intérieur, qu'est-ce qui va se passer pour le Figaro ?
Je pense qu'une entreprise dont on dit quelquefois qu'elle est une personne morale,
oui,
mais en tout cas une personne est capable de secréter ses propres solutions, ses propres, la preuve. Serge Dassault, quand il a repris la succession de son père, il avait 61 ans,
oui.
Personne ne le connaissait, personne ne voulait de lui, il a réussi à la force du poignet à s'imposer comme l'héritier légitime, et je vous rappelle qu'il a non pas seulement géré la succession, mais il a multiplié par 3, par 5, dit-on, la fortune, les activités. Il a eu ce talent extraordinaire de savoir choisir les hommes. Parce que d'abord, le premier rôle d'un patron, c'est de savoir s'entourer, c'est de savoir. Et on parle beaucoup de ses succès dans le Rafale, dans le Mirage ou autre. Il faut quand même ne pas oublier la présence à ses côtés de Charles Edelstein pour l'aviation, de Bertrand Denis pour Dassault Systèmes, de Jean-Pierre Bechter pour la politique.
Mais l'avenir du Figaro, Yves Deschaises-Martin.
Et donc l'avenir du Figaro, j'ai une confiance absolue, je vous le rappelle, je vous l'ai dit tout à l'heure, premier groupe de presse digitale en France. Ils vont trouver la solution, Charles Edelstein, je crois savoir.
Ça va rester dans l'escarcelle des Dassault ?
Écoutez, j'en suis convaincu personnellement et je le leur souhaite. Je vais vous dire, un jour, Rudy Roussillon, qui est l'homme des médias du groupe, l'homme de la communication, qui connaît tous les journalistes de France et de Navarre, m'a dit, le plus grand service que vous avez rendu, que tu as rendu au Figaro, c'est de le vendre à Serge Dassault. Eh bien, je crois qu'il avait raison et je crois que ses enfants vont continuer de me donner raison d'avoir fait ce choix.
Merci beaucoup Yves Deschaises-Martin. À très bientôt, on reparlera de Marianne. C'est la fin de l'émission, bonjour Ali Rebbi.
Bonjour Sonia De Villers. Ce matin, comment vivre de façon heureuse son célibat?
Ouais.
Nous recevons la journaliste Nadia Dame.